Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Nous recevons aujourd'hui l'artiste Maria Bußmann. Maria Bußmann est née en 1966 à Würzburg, en Allemagne, et elle étudie à l'Académie des Beaux-Arts de Nuremberg, puis elle obtient son doctorat en art et philosophie à l'Université des Arts Appliqués de Vienne. De 2002 à 2004, elle est chercheuse à New York et elle enseigne aujourd'hui la philosophie à la Angewandte à Vienne. Maria Bußmann vit et travaille à Vienne et à New York. Bonjour Maria Bußmann. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans l'exposition Beyond Language, où on peut voir tes œuvres à côté de celles de Sandra Böschenstein. Cette exposition, elle a lieu à la Maison Heidelberg, à Montpellier.
Hallo Nadia, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Bonjour, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc on est aujourd'hui entouré de tes dessins, il y en a 48. Ils sont montrés sur tout le mur de la première salle de l'exposition Beyond Language, qui a commencé mardi, donc il y a quelques jours, et va courir jusqu'au 26 avril 2024. Grammaire fantôme. Maria, pourrais-tu te présenter tout d'abord avec tes propres mots?
Ja, sehr gern. Ich bin bildende Künstlerin mit dem Schwerpunkt auf Zeichnung. Und ich habe auch Philosophie studiert und in Philosophie promoviert und unterrichte Kunsttheorie mit einem Schwerpunkt auf Gender Studies und feministische Theorie. Ah ja, in Wien an der Universität für angewandte Kunst.
Avec plaisir. Je suis artiste visuel. Avec comme spécialité le dessin, et j'ai aussi fait un doctorat en philosophie. Et j'enseigne aujourd'hui la théorie de l'art avec comme spécialité de théorie féministe à la Angewandte à Vienne, en Autriche. Alors, tu montres ici une série en cours qui est nommée « Zur Konkordanz Wittgensteins Traktatus » et que tu fais depuis 2015. Cette pièce se base sur la concordance du Tractatus du philosophe Ludwig Wittgenstein. C'est un index alphabétique systématique des mots employés dans ce livre. Chaque mot choisi de cet index est réinterprété par toi au crayon sur papier millimétré. En dessinant, tu questionnes et tu réponds à Wittgenstein qui stipule dans le Tractatus « Les limites de mon langage sont les limites de mon monde ». À ce travail s'ajoute aussi dans l'exposition You and Me, une pièce des 9 dessins que tu as commencé en 2018 et tu as continué en 2024. Et c'est une série sur des papiers trouvés, ils sont bleuâtres, jaunes, aussi de petite taille, comme tous tes dessins. Et là, tu questionnes les formes que le langage peut prendre au travers des migrations, des déplacements, des incompréhensions d'une langue à l'autre. Alors, pourrais-tu nous parler un peu plus de la série principale qui se trouve sur trois des quatre murs qui nous entourent ici?
Gerne. Also, es geht eine Serie über die Konkordanz zu Wittgensteins Traktat. Das klingt jetzt sehr schwierig, aber ich werde es gleich erklären.
Avec plaisir. Donc, comme tu viens de le préciser, il s'agit ici d'une série qui concerne la concordance du Tractatus du philosophe Wittgenstein. Ça a l'air là comme ça assez compliqué, mais je vais l'expliquer là tout de suite.
Also, ich fange an, glaube ich, mit der Erklärung, was eine Konkordanz ist.
Je pense que je vais commencer à expliquer ce qu'est une concordance.
Also, das kommt aus der Bibelwissenschaft. Das ist eigentlich eine Wörterzählung, ein Nachzählen, ein Auflisten von Wörtern, wann die in welchem Zusammenhang verwendet werden.
Ça vient des sciences théologiques et c'est en fait tout simplement un comptage de mots. La concordance donne l'information quand et dans quel contexte un mot apparaît concernant un ouvrage.
Also man könnte sagen, das Wort Honig kommt in einem alttestamentlichen Text vor und ab dieser Zeit datiert man das zum Beispiel, um Erkenntnisse daraus zu gewinnen.
On pourrait par exemple prendre comme exemple l'Ancien Testament et l'apparition du mot miel au sein de cet ouvrage. Et donc le nombre, la fréquence de l'apparition de ce mot nous donne certaines informations. On peut en tirer des conclusions.
Also die Konkordanz, mit der ich mich beschäftigt habe, zählt die Wörter des berühmten Werkes von Ludwig Wittgenstein, nämlich des Traktatus. Und das fängt bei dem Buchstaben A an und hört bei Z auf. Und bei den einzelnen Wörtern steht auch immer dann dahinter, wie oft das Wort vorkommt.
Alors la concordance qui m'a intéressée personnellement compte les mots du célèbre ouvrage de Ludwig Wittgenstein, le Tractatus. Et ça commence avec la lettre A et finit avec la lettre Z. Et derrière chaque mot, et aussi à chaque fois noté, combien de fois le mot apparaît.
Der Traktat hat zum Beispiel das Wort und natürlich ganz, ganz oft. Das wird auch aufgelistet.
Et bien sûr, le mot et apparaît très souvent dans le Tractatus. Et ça aussi, c'est noté.
Oder das Wort Aberglaube kommt nur einmal vor.
Ou le mot superstition n'arrive qu'une fois.
Jetzt versuche ich ein bisschen zu erklären, wie ich zu der Idee gekommen bin, zu dieser Liste von Wörtern, von dieser Sammlung von Wörtern, wieder Bilder zu machen.
Alors, je vais essayer maintenant d'expliquer un petit peu comment je suis arrivée à l'idée de faire de cette liste de mots de nouveau des images.
Vielleicht sollte ich noch vorausschicken, dass wir hier eine Serie von Zeichnungen vor uns haben auf DIN A5 Blättern, die immer oben in der linken Ecke den Begriff, um den es auf dem Blatt in der Zeichnung geht, geschrieben haben.
Alors peut-être je devrais ajouter que nous sommes ici devant des dessins qui ont la taille A5 et que le mot en question est toujours écrit dans le coin supérieur gauche du dessin.
Wie man weiß, ist das ein ganz komplexes Werk mit 7 Hauptsätzen und dann mit Dezimalstellen viele, viele Untersätze.
Alors comme on sait, le Tractatus, c'est un ouvrage très complexe avec 7 propositions principales et qui ensuite se détaille en plein de sous-propositions.
Ich habe damals Philosophie studiert und habe einfach gedacht, ich fange mit dem ersten Satz an und erfinde mir ein Arsenal von Zeichen, von kleinen Figuren und gehe an die Arbeit.
Je faisais des études de philosophie à l'époque et je pensais, je vais commencer avec la première proposition. Et j'invente une multitude de signes, des petites figures, et je me mets au travail.
Ich bin nicht weiter als bis 92 gekommen. Satz 2, also ja, mit den Untersätzen, ja, oder Zeichen 92. Und habe dann aufgegeben. Denn mein System an Zeichen war so kompliziert, dass ich lange gebraucht habe, mich einzuarbeiten, um zum Zeichnen zu kommen. Und das war dann sinnlos.
Je suis arrivée jusqu'à la proposition 92, puis j'ai abandonné. Parce que mon système de signes était tellement compliqué que ça m'a pris beaucoup de temps de m'habituer à mon propre système pour commencer à dessiner. C'était un peu, voilà, c'était un peu raté.
Genau, und 10 Jahre später habe ich das Thema Wittgenstein wieder aufgegriffen. Dazwischen habe ich mich mit anderen Philosophen beschäftigt. Genau, und
et puis 10 ans plus tard, j'ai recommencé de réfléchir au sujet Wittgenstein. Et entre-temps, je m'étais intéressée à d'autres philosophes.
Ich habe dieses Buch der Konkordanz tatsächlich geschenkt bekommen.
Et ce livre de la concordance, donc de cette liste de mots, Il se trouve qu'on me l'a offert.
J'ai überlegt, was ich damit machen kann.
Et puis je réfléchissais ce que je pourrais bien faire avec ce livre.
Ich meine, ich kann natürlich nicht so weit ausholen. Man weiß vielleicht, dass der Tractatus Logico Philosophicus ganz am Anfang steht beim Wittgenstein, sogenannter Wittgenstein 1 ist, und später der Wittgenstein 2 mit der Analytik-Sprachanalyse ist wieder ganz anders. Also ich bin beim Wittgenstein 1 geblieben. Also im zweiten geht es um die Sprachanalytik, Sprachanalyse, und Wittgenstein hat dann seine Anfänge verworfen. Der Wittgenstein hat schon versucht, mit dem Tractatus gewissermaßen auch überheblich die Welt zu erklären.
Bon, je peux peut-être pas m'étaler trop, mais peut-être il faut savoir que le Tractatus Philosophico-Logicus est tout au début de l'œuvre de Wittgenstein. Ce qu'on nomme habituellement le Wittgenstein 1 et puis le Wittgenstein 2 qui s'intéresse avant tout à l'analyse de la langue et des nouveaux très différents. Personnellement, je suis restée au Wittgenstein 1 et Wittgenstein a effectivement essayé avec Tractatus en quelque sorte d'expliquer le monde.
Und das war auch wurde als Doktorarbeit anerkannt, hatte auch keine einzige Referenz zu jemand anderem, ne? War auch ungewöhnlich. Also er bezieht sich schon auf den was andere Philosophen, aber ohne Fußnoten. Also es war eine ungewöhnliche Form.
Mhm. Et c'était d'ailleurs accepté en tant que thèse de doctorat, alors qu'il n'y avait aucune référence de l'ouvrage, ce qui était assez inhabituel.
Also Wittgenstein hat, bevor er den Tractatus geschrieben hat, einmal eine Wörterfibel für Volksschulkinder verfasst. Denn er war Volksschullehrer in Kirchberg in Österreich. Weil er auch geglaubt hat, dass man mit der Bedeutung der Wörter beginnen muss. Und das muss man den Kindern beibringen. Interessanterweise hat er sonst nichts selber veröffentlicht, außer dieser Kinderfibel und den Tractatus. Und die anderen Bücher sind von seinen Schülern ja zusammengestellt. Das ist ganz spannend. Also die Bedeutung von Wörtern, welche Wichtigkeit Wörter haben, war ganz wichtig für ihn eben auch.
Et avant qu'il ait écrit le Tractatus, Wittgenstein, il a écrit un recueil pour enfants. Et parce qu'il a cru qu'il faut commencer avec le sens de mots. Et c'est ça qu'on devait apprendre aux enfants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a édité rien d'autre à part cet ouvrage pour enfants et le Tractatus. De son vivant, il a édité rien d'autre. Donc la compréhension de mots est extrêmement importante pour lui.
So bin ich dazu gekommen, die Konkordanz in ihre, sag ich mal, leeren, sinnlosen Auflistung wieder in Bilder zu verwandeln. Genau, es ist wie eine Umkehrung der Idee, was eine Konkordanz ursprünglich.
Et c'est ainsi que je suis arrivé à m'intéresser à transformer la concordance, cette liste de mots dénués de sens, en image. C'est comme un renversement de l'idée de ce qu'est la concordance à l'origine.
Oui. Und natürlich ist dann das, was ich als Bild zu jedem Begriff oder Wort erfinde, wieder eine sehr persönliche, weil künstlerische Deutung. Also es verliert wieder von dem Allgemeinen des zeichenhaften Wortes und geht über in diese persönliche Interpretation.
Et bien sûr, l'interprétation que je donne du mot au travers de l'image devient, avec un dessin, une interprétation très personnelle parce qu'elle est artistique. Donc on passe du signe général à quelque chose de subjectif et personnel.
Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht, denn man kann natürlich ein bisschen Humor hineinbringen und man kann seine eigene Deutung klar machen.
Et ça m'a fait plaisir, et bien sûr on peut y voir aussi de l'humour, puis on peut appuyer sa propre interprétation.
Zum Beispiel bei dem Wort befähigen. Ich glaube, das kommt auch nur einmal vor, habe ich vergessen. Da habe ich eine Art Korsett mit Flügeln für eine Maus gezeichnet. Die Maus wird befähigt zu fliegen. Das ist natürlich wiederum meine Interpretation, aber es kommt ein bisschen Humor hinein. Man kann natürlich da sich hinein vertiefen und denken, dass ich bin auch die Maus, die versucht, mit Gedanken zu fliegen. Ne?
Par exemple, pour le mot befähigen, ce que veut dire rendre capable. Alors pour ce mot, j'ai dessiné une sorte de corset pour souris. Et sur ce dessin, on voit donc une souris qui est capable de voler grâce à ce corset. Et puis on peut bien sûr se plonger les dents, se dire que moi aussi je suis la souris qui peut voler avec la pensée. Et c'est bien sûr ma propre interprétation de ce mot.
Ou das Bild an, wir haben das schon erwähnt, ansehen, das erfährt durch meine Zeichnung eine gewisse feministische Deutung, sage ich mal.
Ou alors le dessin ansehen, ce que veut dire regarder quelqu'un ou quelque chose, ce mot obtient par mon dessin une interprétation féministe, je dirais.
Denn es geht die Medusa, die dem Perseus erscheint, und man weiß ja die Geschichte. Also.
Puisqu'il s'agit donc de l'histoire de la méduse qui apparaît à Persée, et on connaît l'histoire, j'imagine. Mais je me permets de la rappeler ici.
Also, die Medusa war eine Gorgonentochter mit den Schwestern. Drei Gorgonen gab es. Und sie wurde im Tempel der Athene vergewaltigt und dafür bestraft und in dieses Monster mit den Schlangenhaaren verwandelt. Und die weitere Strafe war auch noch, dass jeder, der sie so sieht, erstarrt. Ich mache die Geschichte kurz. Also der Perseus kriegt ja dann geheime Waffen sozusagen, um mit dem spiegelnden Schild dem Blick der Medusa auszuweichen. Und sie außerdem, ich glaube, lässt sie einschlafen und während sie schläft, haut er ihren Kopf ab. Also die wird doppelt und dreifach bestraft.
Donc la Méduse était une fille de Gorgogne qui apparaît à Persée et elle était violée dans le temple d'Athènes. Et pour cela, elle était punie et transformée en ce monstre avec le cheveu de serpent. Et une punition supplémentaire était que toute personne qui la voyait ainsi se transformait en pierre. Je raconte cette histoire de manière courte. Donc Persée reçoit des armes secrètes pour pouvoir éviter le regard de la méduse avec un bouclier à miroir qui lui permet d'éviter le regard de la méduse. Et puis il arrive à l'endormir et puis donc elle dort, me semble, il lui coupe la tête.
Der Punkt ist, dass Medusa so ungerecht behandelt wurde. Und jetzt kommt die feministische Sichtweise.
Et le point est que la méduse est traitée avec beaucoup d'injustice. Et maintenant vient l'interprétation féministe.
Ich denke, in Frankreich kennt man das Lachen der Medusa von Hélène Cixous. Sehr gut, oder ist es bekannt? Rire de la Méduse, heißt das, glaube ich. Genau. Es ist ein Manifest, kann man sagen, ein feministisches Manifest der 70er Jahre. Und wie der Titel schon sagt, Medusa lacht. Also sie ermächtigt sich selbst und ändert ihr Schicksal.
Et je pense qu'en France, on connaît donc le livre Le rire de la Méduse de Hélène Cixous. On peut dire que c'est un manifeste féministe des années 70. Et comme le titre l'indique, la Méduse rit. Elle se redonne elle-même du pouvoir et change son sort.
Und das ist so interessant, weil jetzt nach MeToo und unserer neuen Auffassung von diesen Dingen sich Missbrauchsopfer sehr oft ein Tattoo mit der Medusa eingravieren lassen oder tätowieren lassen.
Et ça c'est réellement intéressant parce que aujourd'hui, après MeToo et notre nouvelle approche à ces choses, des personnes qui étaient victimes de violences sexuelles se font aujourd'hui souvent tatouer une tête de méduse, en référence à la nouvelle interprétation de ce mythe par Hélène Cixous.
Und so ist das Motiv der geschändeten und doppelt bestraften Medusa in das Gegenteil umgekehrt worden. Und das ist toll, ne? Empowerment. Und der Mythos wird neu betrachtet.
Et donc, le motif de la méduse qui était violée et doublement punie a été renversée et transformée dans son contraire, Et c'est aujourd'hui devenu un symbole d'empowerment. Et ça, c'est super. Ce mythe est abordé autrement aujourd'hui. Il est lu d'une nouvelle façon.
So, das war nur ein Beispiel dafür, wie man ein Wort ansehen. Man könnte auch neutral was machen oder ein Fernglas schreiben, eben auch in dem Bild schon eine Interpretation mitgeliefert bekommt.
Et ça, c'est un exemple comment on peut interpréter de manière personnelle un mot, parce qu'on pourrait évidemment aussi en créer une image beaucoup plus neutre.
Also, mir persönlich macht die Beschäftigung mit Wörtern sehr viel Spaß. Vielleicht ich erkläre noch kurz das Letzte, was wir hier als Beispiel vor uns haben.
Bedeutungslos und bedeutungsvoll. Das eine kommt viermal vor und das zweite nur zweimal. Und zweimal sieht man ein Glas und eine Teekanne und einmal werden nur Luftblasen oder nichts eingefüllt und beim zweiten Glas sieht man eine Art Buchstabensuppe. Also das, was eingefüllt wird, sind lauter...
Ja. Donc personnellement, je m'intéresse aux mots. Donc je veux bien encore expliquer un autre dessin. Donc on a ici bedeutungslos, bedeutungsvoll, ce qui veut dire sans sens et plein de sens. Et donc le premier apparaît quatre fois dans le Tractatus et le dernier que deux fois. Et puis d'une part, donc on voit une théière qui remplit un verre avec du rien, avec des bulles. Et pour la deuxième théière, on voit une sorte de soupe de lettres. Et ce que verser dans le verre, c'est plein de lettres.
So bringt eben jede Zeichnung dann eine Fülle von Möglichkeiten der Interpretation. Also bereichert wieder den eigentlich den schmalen Begriff aus der Liste mit einer ganzen Bildwelt.
C'est ainsi que chaque dessin amène une quantité, une multitude de possibilités d'interprétation et élargit finalement le terme comme il apparaît dans la liste de mots et amène un monde d'images.
Ich könnte noch sagen, dass ich beim Buchstaben B bin und dass die ganze Konkordanz mehrere tausend, ich glaube 5000 oder ich weiß nicht wie viel Wörter auflistet. Und das Ganze ist ein fortlaufendes Projekt.
Je pourrais ajouter encore que je suis à la lettre B et que la concordance a plus de 5000 mots à peu près et que moi je ne fais à peu près 80. Et donc c'est un projet en cours.
Ich freue mich sehr, dass ich hier in der Maison de Heidelberg sein kann, weil das ist der perfekte Ort dafür. Mit Bild und Sprache und einer Ausstellung oder eine Serie, eine Serie zeigen zu dürfen, die mit Sprache zu tun hat, ist wunderbar.
Je suis ravie de montrer cette série à la Maison Heidelberg, de montrer ici de l'image et de la langue, et je pense que c'est l'endroit parfait pour ce type de série. Merci beaucoup, Maria.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme, une émission par Nadia Lichtig.